12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui au cinéma à travers deux films qui, je pense, mais nos critiques le diront, n'ont absolument rien en commun, si ce n'est qu'on y voit des cerfs et qu'on y entend quelques coups de feu. Le premier se passe à côté de Tokyo et voit s'affronter des villageois qui vivent en harmonie avec la nature à des citadins avides d'évasion dans un camping. C'est le film Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Le second raconte l'histoire de Rosalie, femme à barbe dans un hameau breton dans les années 1870 qui veut vivre sa vie telle qu'elle est, c'est Rosalie, tout simplement, de Stéphanie Di Giusto.
Nous en débattons ce midi avec Thierry Chaise. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première, animateur de télé et de radio. Face à vous, Charlotte Garçon. Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture.
Et on commence avec le film Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi en salle aujourd'hui. Takumi et sa fille Anna vivent dans un village à quelques kilomètres de Tokyo, le village de Mizubiki. Ici, chacun habite en harmonie avec la nature, coupe son bois, puise son eau à une source auprès des arbres et entouré de neige quand les hivers sont rudes. Jusqu'au jour où un projet de glamping, camping glamour, glamping donc, bouleverse l'harmonie des villageois. De là, la trame du nouveau film de Ryusuke Hamaguchi semble lancée. D'un côté, les méchants citadins, capitalistes naïfs en soif d'une nature fantasmée. De l'autre, de gentils ruraux, forcément perdants face au tourisme rampant. Mais évidemment, rien n'est aussi simple, rien n'est aussi sûr que semble l'annoncer ce titre. Le mal n'existe pas, car le mal, il y a, mais où et sous quelle forme? Derrière les scènes du quotidien, sourd, le fantastique, derrière le récit manichéen apparaît la déroute des repères. Qu'en avez-vous pensé, Charlotte Garçon?
Oui, c'est intéressant parce que c'est Hamaguchi, sans doute, si on connaît un petit peu maintenant son cinéma depuis au moins Drive My Car, ce film qui pourrait être une satire ou quelque chose de très édifiant finalement sur le besoin d'attention à l'écologie, on voit tout de suite qu'il s'agit non pas d'autre chose, mais que c'est mis en scène d'une façon absolument singulière. Et pour moi, ça se passe pendant l'espèce de conseil de quartier qui n'en est pas vraiment un, qui est en fait une réunion organisée par l'agence de communication qui vient apporter l'information entre guillemets de la prochaine colonisation d'une partie de leur territoire à cette petite communauté de 5 ou 6 000 habitants. Et en fait, pendant cette séance, qu'on aurait pu voir dans un autre film, qu'on voit d'ailleurs dans d'autres fictions contemporaines, se passe quelque chose qui est vraiment propre au cinéma de Ryusuke Hamaguchi. C'est qu'en fait, quelque chose advient dans la parole, presque comme quand on dit ça en psychanalyse, par exemple. C'est-à-dire que les gens, tout à coup, se révèlent en expliquant aux communicants que ça ne va pas se passer comme ils croient que ça va se passer. Et au lieu d'un affrontement, disons, programmé, qu'on attendrait, se produit véritablement quelque chose dans la façon dont chacun des personnages s'exprime et relie le problème à son propre trajet. Donc ça a l'air très abstrait.
J'ai plutôt bien compris, là, Charlotte.
Oui, et en réalité, ce que j'aime chez Hamaguchi, c'est qu'il s'ancre dans des choses extrêmement concrètes, voire triviales. Par exemple, il y a cette restauratrice qui dit qu'elle n'est venue que 4 ou 5 ans s'implanter pour la qualité de l'eau de source, justement parce qu'elle fait des udon et que leur goût n'est pas le même, puisqu'on est à midi, bon appétit, leur goût n'est pas le même selon la qualité de l'eau. Et tout de suite, en fait, il me semble qu'en tant que spectateur, on a presque des sens qui sont éveillés par la mention dans la parole parole de cet aliment. Et plusieurs fois dans le film, je me dis que c'est par
cette fascination. C'est par la parole que quelque chose advient.
Alors qu'on pourrait attendre quelque chose d'un peu plus spiritualiste, traditionnaliste, sur l'idée que ces gens auraient des racines dans le lieu, il ne faudrait surtout pas abîmer leur territoire, leur rapport aux esprits, aux anciens. Or, pas du tout. Le héros, Takumi, qui est l'homme à tout faire du lieu, dit « Mais moi, mes ancêtres, c'était des pionniers dans le sens où ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Ma famille, en fait, on est tous... Ce village avant, n'était pas un village. Et donc, ce n'est pas au nom d'une tradition qu'on vous demande de ne pas venir. C'est au nom de quelque chose de beaucoup plus concret dans notre quotidien et qui nous relie à la nature par des choses très, très petites.
Thierry Chaise, qu'en avez-vous pensé ?
J'étais très impressionné et moi j'adore les films où vraiment je ne comprends pas tout, à commencer par pourquoi ce titre jusqu'à la fameuse fin qu'on n'expliquera pas, tout simplement parce que déjà je serais bien incapable de vous l'expliquer.
Ah non, mais ça c'est génial parce que voilà. les articles présentent cette fin en disant on ne pourra pas spoiler.
Et ben c'est vrai, voilà, je vais vous dire.
On ne peut pas spoiler, mais aussi parce qu'on
moi très honnêtement je ne spoilerai pas parce que je ne pourrais pas vous la détailler. Non mais voilà.
C'est honnête, merci.
Non mais il y a quelque chose dans ce film qui fait que vraiment on entre dans le film, on entre dans ce lieu, dans ces personnages. Et avant que la parole n'opère, comme l'a très bien dit Charlotte, il y a tout ce début où on est vraiment avec cet homme, qu'on découvre ensuite avec une petite fille. On prend le temps. Alors parfois, prendre le temps, ça veut dire, bon, on tire à la ligne, ça va être ennuyeux. Et là, ça participe de ce qui va se passer. Et du côté, en effet, ça, c'est même pas cérébral, c'est purement physique. Ressentez ce qui se passe. Et c'est pas, comme le dit très bien aussi Charlotte, c'est pas les esprits qui arrivent, c'est juste, voilà cette nature, voilà cet homme, voilà cette petite fille. Et ensuite, vont arriver les autres. Et ce qui est formidable, justement, c'est ça, en effet, c'est qu'il n'y a pas l'affrontement basique qu'on peut attendre. Et en même temps, là, c'est que c'est comment la parole, à ce moment-là, peut, à un moment, faire que, là, d'un seul coup, justement, ceux qui viennent représenter ce groupe qui veut s'installer vont entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue de sourds chez Hamaguchi. La parole a aussi un effet parce qu'on s'écoute et parce que ça peut changer des choses. Et moi, je me suis vraiment fait emporter. Je ne savais pas du tout où j'allais aller à aucun moment.
Bah, ni à la fin, ni après d'ailleurs. Fin.
Donc c'est très cohérent, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aux commandes qui sait. C'est d'une splendeur jamais écrasante, mais vraiment c'est un véritable voyage. Et moi qui ai adoré Drive My Car, où là la parole avait vraiment vraiment une importance et surpassait même les silences, j'aime bien ce sentiment de pas de côté, tout en étant profondément en effet Hamaguchi dans ce côté très trivial, c'est des choses très concrètes qui sont dites, qui sont montrées, pourquoi on veut rester, pourquoi on ne veut pas, pourquoi les autres veulent aller là. Et ça en fait une sorte de fable anticapitaliste, parfois très drôle, parfois très tragique, parfois très fantastique, mais quand un tel pilote est aux commandes, non, on est prêt à aller loin dans le voyage pour moi.
Ah ben justement, est-ce que vous pouvez nous parler, Charlotte,
de la fin
Dites-nous ce qui se passe, en fait, parce qu'on n'a pas compris. Non, de Hamaguchi, de ce pilote Hamaguchi. En fait, c'est quoi comme type de cinéma et pourquoi il est si difficile, là, de parler de ce film? C'est-à-dire que vous semblez tous les deux avoir été emportés, mais au-delà de l'incompréhension, voilà, il y a quelque chose, même le sujet n'est pas clair. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'affrontement entre des villageois et des citadins. C'est, en même temps, ce n'est pas vraiment autre chose. Il y a des scènes du quotidien. Il se passe quoi? Est-ce que ça, c'est typique de Hamaguchi?
Alors, ce qui me semble typique, c'est l'importance de l'indirect. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque j'ai dit qu'il y avait une scène de confrontation entre les villageois et ses communicants, hein, parce que ce ne sont même pas directement les ingénieurs, les directeurs de ce projet, mais des gens censés les représenter, donc qui sont obligés très tôt d'avouer leur ignorance sur des détails très importants, tels que là où on met la fosse septique. Mais donc, il me semble que l'idée que l'indirect, c'est-à-dire que l'idée que la parole, c'est toujours au fond de la négociation, de la circonlocution. Et ça rencontre un point culturel japonais et que l'on voit dans cette séance de confrontation, puisqu'il s'agit toujours de dire à l'autre qui vous conteste, oui, bien sûr, je comprends. Enfin, voilà, il n'y a pas d'affrontement direct. Donc, la mise en scène et l'écriture de Hamaguchi rencontrent aussi, je pense, une réalité japonaise, mais tout en la sapant de l'intérieur. Et ce qui nous a sans doute frappé et emporté dans ce film. Alors moi d'abord sur un mode plutôt de la déception. Hein. Je dois dire que quand je suis sortie,
vous n'êtes pas complètement emportée.
Je ne comprenais pas pourquoi je partais pour un film plutôt nuancé, c'est-à-dire une satire écologique, un peu édifiante, mais en fait beaucoup plus subtile, puisqu'on a un cinéaste qui est le cinéaste de la nuance. Et puis tout à coup, vers la dernière partie, j'ai été lâchée, je ne comprenais pas, par une sorte de décrochage symboliste. Et donc, je me sentais lâchée comme spectatrice, dans la mesure où, à cet art de l'indirect et de la parole, se substitue une catastrophe, je pourrais dire. Le geste
inattendu.
Se substitue à la parole. On frappe. C'est comme si, au lieu de parler, on se mettait à frapper. la mort advient, on ne va pas dire comment. Mais... C'est-à-dire qu'il y a une violence. Et puis après, je me suis dit, mais tout ça, c'est ça le film. C'est cette expérience figurale pour le spectateur, même dans l'après-coup et même de manière un peu désagréable, on croyait être lancé sur quelque chose qui se reliait à nos vies, nos expériences, les petites individualités, comme il sait très bien les mettre en scène depuis Senses aussi, le très long film qu'il avait fait.
Qui date de 2015.
Qui parlait de ce rapport à la nature des citadins, des citadines plutôt, parce que c'était un groupe de femmes. À un moment, il dit, mais en fait, quand la catastrophe arrive, elle se fait pas dans le détail. Elle balaye toutes les nuances, toutes les possibilités de parler, etc. Et ça m'a rappelé le fait que Hamaguchi avait fait une trilogie documentaire avec un co-réalisateur sur le tsunami, sur les conséquences de Fukushima, et il y a déjà plus de 10 ans. Mais au fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a un sens de la catastrophe, notamment de la catastrophe écologique. Là, la catastrophe, c'est plus du tout de l'ordre du discours. C'est quelque chose d'un autre régime. Et j'ai senti ça, mais c'est vrai que ça, on en passe, nous, comme spectateurs, par se dire...
Donc, déception, et après, finalement,
c'est dur.
Vous avez digéré, et là, vous avez aimé par la suite.
Oui,
vraiment...
sur le coup, j'en ai voulu.
Ah oui, quand même.
Thierry Chaise.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est presque un film de commande, puisqu'au départ...
Oui, il faut expliquer effectivement
la genèse.
Voilà, il
doit faire... C'est la personne qui avait signé la musique de Drive My Car, qui est une musicienne et qui lui commande des images pour à projeter derrière, un mini-film à projeter derrière sur un écran alors qu'elle est en train de faire un concert. Et donc c'est en partant de là qu'il va arriver sur ce lieu, qu'il va rencontrer les gens et qu'il va avoir cette idée. De même pour le l'acteur principal qui en est fait un débutant, qui était son assistant réalisateur. Et donc où il explique qu'en fait, je trouvais qu'il prenait bien le cadre parce que lorsque j'étais en repérage, c'était toujours lui qui était sur les photos. Et il y a, et je me dis que voilà, il y a aussi quelque chose, alors que moi, je m'attends toujours chez lui à quelque chose d'extrêmement, justement, cadré, précis, où ça ne va pas dépasser, d'où la déception qu'on peut avoir, la surprise, voilà. Enfin, et en fait, c'est ces petits cailloux aussi qui ont fait que, sans doute, ça l'amène jusque-là. Et en effet, sur cette fin fantastique, entre guillemets, d'un seul coup, j'étais presque chez David Lynch à un moment, je me suis dit, tiens, ça, j'ai dû rater un épisode, Et c'est un film, voilà, ça fait partie de ces films qui vous poursuivent longtemps après, mais pour des bonnes raisons, voilà.
Alors, vous avez bien fait, Thierry, de rappeler effectivement que la genèse de départ, c'est donc sa compositrice Eiko Ishiba qui lui demande en fait de faire des images, de tourner des images pour un concert qui va s'appeler Gift, qui n'a pas encore été représenté. Et c'est là qu'il a l'idée, effectivement, de faire ce film. Mais pour ce cinéaste qu'on compare souvent à Romer, notamment pour les dialogues, partir d'un film qui est d'abord fait d'images, on voit bien le déplacement de l'usage de la parole dont vous parlez. Charlotte.
Oui, c'est vrai que du coup, on pense plus du tout à Romer, alors que lui-même, il avoue une filiation avec ça. Alors, on pense un tout petit peu à Jean-Luc Godard, et notamment le Jean-Luc Godard un peu dernière, un peu tardif, Nouvelle Vague, le film qui s'appelle Nouvelle Vague, le rapport à la nature, la musicalité.
Ou sur le langage, par exemple, aussi.
Oui. Des films qui sont ouverts à une immanence de la nature et à sa musicalité aussi, et au fait que le discours, ça peut être aussi une matière. Je dis Godard parce que quand on voit les lettres du générique avec ses couleurs primaires, le bleu et le rouge, on pense qu'il a directement, qu'il s'est inspiré de certains titres de Godard. Et je trouve que le film est comme ça. C'est-à-dire qu'il a une extrême, une sorte de post-modernité en même temps qu'apparemment un sujet un peu traditionnaliste du rapport avec la nature et qu'il y a un court-circuit entre les deux. C'est ça qui est grinçant, comme expérience pour le spectateur, c'est que c'est un court-circuit, me semble-t-il, entre les deux plutôt qu'une sorte sorte de passage harmonieux, de mélange de l'un et de l'autre dans quelque chose de très civilisé. Non, il y a une violence à ça. Après, sur la musique, je sais qu'il y a eu beaucoup d'entretiens, ils parlent beaucoup de ça. Moi, elle n'a pas été au premier plan pour moi. Il y a une musicalité au sens plus abstrait du travail, du montage, etc. Mais ce début très musical, d'une certaine façon, où la caméra s'avance sous des frondaisons dans la forêt, où on se dit, ah oui, en fait, on comprend que c'est le point de vue de la petite fille qui baisse la tête en arrière et qui avance comme ça en voyant les arbres. En réalité, moi, il m'a aussi fait penser au point de vue du mort dans Vampire de Dreyer, ce film muet où on voit quelqu'un qui est dans un cercueil et il y a une petite lucarne dans son cercueil et en fait, on voit le point de vue du mort. Donc, en fait, c'est peut-être ce sont des petits cailloux dont parlait Thierry Chaise qui anticipent cette catastrophe. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, c'est une poésie que je goûte assez peu, ce côté dénué de paroles et voilà, poésie de la nature. Et en fait, je pense que c'est un peu aussi une fausse piste.
Voilà donc cette musique, Charlotte Garçon, si vous voulez bien l'entendre. Donc Daiko Ishibashi, à l'origine, on l'a expliqué de ce film, donc Le mal n'existe pas, de Ryusuke Hamaguchi, et c'est en salle aujourd'hui.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbault, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous parlons à présent de Rosalie, de Stéphanie Di Giusto, c'est en salle aujourd'hui et en partenariat avec France Culture.
Tu crois vraiment qu'il comprendra ?
Vous êtes né comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux. J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi, vous soyez comme les autres.
La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça sent bien. Suffirait que je laisse pousser la mienne.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
Comment vous allez faire avec vos têtes ? Ça fait venir les clients.
Faites pas ça. Ils vont vous humilier.
Direction la France, dans un hameau breton des années 1870. À l'écran, Rosalie, jeune femme qui s'éveille en panique d'un cauchemar. On la comprend. Demain, elle devra quitter la maison familiale, son père, l'enfance, pour se marier à Abel, un homme traumatisé par la guerre qui ne l'épouse que pour sa dot et éponger ses dettes. Mais on l'a entendu, Rosalie n'est pas qu'une jeune femme qui redoute le mariage. Depuis sa naissance, elle rase son visage et son corps recouverts de poils. Arrivée chez Abel, elle décide de se libérée, elle refuse désormais de se cacher. Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice Stéphanie Di Giusto refuse quant à elle la forme du biopic et décide de filmer le désir. Comment apparaît le désir de Rosalie, loin des corps lisses et uniformes ? Comment pourra-t-elle l'exprimer ? Comment Abel va-t-il le percevoir ? Et vous, comment l'avez-vous perçu, Thierry Chaise ?
Moi, j'ai déjà une passion pour ces deux acteurs principaux, qui sont Nadia Tereshkevics et Benoît Magimiel. Nadia Tereshkevics, je trouve que à la fois dans quoi on l'a choisi, en tous les cas au début, et dans ce qu'elle peut choisir depuis qu'elle en a l'opportunité, il y a une vraie cohérence et elle apporte à chaque fois quelque chose qui transcende son personnage. Je suis vraiment très impressionné. Et Benoît Magimel, qu'il ait les premiers rôles, comme souvent, ou ici, plus un rôle secondaire, il occupe un espace sans jamais écraser son ou sa partenaire. Et c'est un duo, voilà, formidable. Stéphanie Di Giusto, j'avais plutôt aimé la danseuse qui était.
C'est son premier long métrage de 2016.
Premier long métrage qui était un film autour de Loïc Fuller, la danseuse, comme le titre l'indique. Et il y avait quelque chose qui est un peu commun finalement avec cette Rosalie, c'est-à-dire c'est une héroïne et puis en face d'elle plein d'obstacles qu'elle doit surpasser. La différence c'est que Loïc Fuller ne vivait que pour son art et donc tout ce qui était les histoires amoureuses était vraiment balayé ici et c'est la différence avec l'histoire de Clémentine Delay. Dans l'histoire de Clémentine Delay, dans le livre dont elle s'est inspirée, il n'est ni question de son mari, ni question de ses histoires d'amour, il est question de sa condition de femme à barbe. Elle a donc rajouté, tout ça a été rajouté, outre le fait qu'elle déplace l'action, mais il y a aussi ça. Et je trouve que il y a dans cette manière de vouloir raconter ce personnage-là, au-delà de son aspect physique, par la possibilité, au nom d'une histoire d'amour, par la avec quelqu'un qui finalement est revenu de la guerre dans un état, enfin blessé, on sent qu'il est humilié par les autres, c'est qu'il y a une sorte de bête curieuse. La question est, qu'est-ce qui va se passer dans leur cage, qui est ce café dans lequel elle va prendre finalement le pouvoir, et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va décider d'en sortir, et qu'à partir de là, elle surgit aux yeux du monde entier. Que va-t-il se passer pour elle, pour lui, pour leur couple, et que va-t-il se passer notamment face au grand industriel qui a une sorte de vie, de droit de vie ou de mort sur ce village, qui est incarné par Benjamin Violet. Et que toutes ces thématiques-là, pour moi, éloignent ce film à la fois du film de Freaks pur et simple, et du classicisme qui est un peu, qui à chaque fois, dès qu'on fait des films en costume, on peut avoir ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé tous les sujets qu'elle a envie de traiter à travers ce personnage.
Charlotte Garçon.
Oui, on voit bien qu'il y a une suractualisation, disons, du sujet de l'hirsutisme, et qu'il s'agit de... Parce qu'en fait, il s'agit non seulement d'affirmer sa différence, mais de l'aimer, de s'aimer soi-même, de...
Et que les autres nous aiment aussi.
Oui, ça va ensemble dans ce personnage. C'est pour ça que le jeu très doux, enfin, le parti pris de jeu dans la douceur et de Nadia Tereskiewicz et de Benoît Magimel, finalement, les deux, quelle que soit leur très grande différence, de corpulence, finalement, il y a un parti pris de jeu. Ça fonctionne assez bien. Je trouve que c'est un parti pris intelligent parce qu'on glisse par rapport à un traitement sociétal du sujet. Mais par contre, ce qu'on sent beaucoup, je trouve que c'est une affirmation très, très au goût du jour, disons, du féminisme, de la réappropriation du stigmate. Puisque Rosalie va décider, y compris d'aller se faire photographier, de faire des cartes postales et d'essayer de faire commerce, en fait, tout simplement de sa différence, puisqu'elle ne peut pas la cacher, eh bien autant l'affirmer. Et là, donc il y a des problématiques qui rencontrent les problématiques trans, notamment elle rencontre un couple de, on peut dire, donc qu'on suppose un couple de d'hommes qui sont un peu des saltimbanques,
qui lui propose d'ailleurs de la rejoindre et d'être vraiment le phénomène de la femme à barbe, ce qu'elle refuse d'une certaine manière,
mais
c'est qu'elle évite.
Oui, mais le personnage, à un moment dont on comprend sans doute qu'il est donc homosexuel, dit « Ah, mais une femme avec une barbe, c'est la femme idéale, voilà, pour lui. » Donc on voit bien que ça traverse, il s'agit d'actualiser vraiment...
Vous trouvez que c'est anachronique, presque.
Oui, mais c'est un anachronisme revendiqué. De même que cette jeune femme, par exemple, quand son mari va fouiller dans ses petites affaires, a toute une documentation, d'une certaine façon, sur les femmes à barbe. On voit une gravure qui est en fait une gravure qui existe de la fin du XVe siècle, un peu à la Dürer, où on voit une femme entièrement couverte de poils. Elle a un crucifix qui est en fait... Un crucifix, c'est fou, ça ressemble au Christ exactement, sauf qu'il a des seins. Et j'ai recherché, du coup, puisque ça m'a intéressée. Et c'est Sainte Vilgefortes, Virgus Fortis. Et voilà, c'est... Tout ça fait que le film est documenté aussi dans ce sens-là. On voit bien qu'il s'agit à la fois de quelque chose d'un peu de l'empouvoirment féministe actuel. Alors, je trouve que c'est quand même aussi limité dans le sens où on sent bien que malgré tout, le film à sujet est là et qu'un certain classicisme de la forme persiste, mais pas désagréable.
Et sur la question quand même du désir, parce qu'effectivement, il y a le risque de faire un film sur les freaks, de faire un biopic qui se finirait bien, ou alors normal, mais en tout cas avec quelque chose de l'ordre de l'ascension puis de la chute, ou inversement, là on est quand même du côté de filmer des corps, filmer du désir, que ce soit le corps de Benoît Magimel avec ses cicatrices, il a le dos cassé, il est traumatisé, elle se recouvre de poils, et plus elle se recouvre, plus elle se découvre au monde. Il y a quelque chose de très sensuel quand même, qui évite peut-être un peu la forme classique, Thierry Chasse.
Moi, c'est ce que je trouve intéressant, parce qu'il aurait été beaucoup plus simple de faire des ellipses, et dire, voilà, les enfants dans une chambre, on voit. Ou alors, d'en faire des monstres de foire, l'un et l'autre, d'ailleurs. Et je trouve que c'est quand même... Je pense qu'il y a tout un travail qu'elle fait, que moi, je trouve très réussi, là-dessus. C'est-à-dire que cette sensualité qui surgit, et qui, pour moi, surgit très naturellement, qui ne force pas les choses. Parfois, on peut se dire, tiens, comme disait Charlotte, on force un peu le côté moderne. Là, je trouve qu'il y a quelque chose... qui à la fois suit l'évolution des personnages et va à fond dans cette sensualité, ose y aller sans faire de la provocation, sans mettre le spectateur mal à l'aise. On est dans l'anti-film de freaks, mais dans le parfait film d'amour. Et je trouve que c'est théoriquement facile. En pratique, c'est très compliqué à faire et ça n'est qu'un deuxième long métrage. Mmh. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui fait que ça, sur ce point-là, elle est vraiment une cinéaste accomplie.
Vous avez raison de le dire, Thierry. C'est pas que le récit de l'affranchissement de Rosalie, même ça reste l'héroïne et que Benoît Magel est un petit peu effacé, c'est que c'est toujours quand même une histoire d'amour. C'est l'évolution, c'est pas que celle de Rosalie, Charlotte Garçon.
Alors c'est quand même, moi, l'un des points faibles du film, c'est que on arrive au milieu du film et on se dit il est encore grognon, le mari ne veut toujours pas aller.
Mais justement, c'est une évolution lente.
Non.
Ah, vous vouliez que ça se passe tout de suite.
C'est
pas
tout de suite, mais enfin c'est quand même très long. À un moment, il sait que sa femme
est poilue,
Charles ne l'a toujours pas chassé quand même de sa maison. Donc voilà. Donc évidemment, sinon il y aurait plus de film. Mais je trouve que ça met un peu son temps à venir et qu'il faut qu'elle soit effectivement très patiente et très amoureuse. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que quand même le film réfléchit sur les regards, la mise en scène de soi, hein, puisque comme je disais, elle s'approprie sa différence, y compris pour une fin commerciale. Et ce qui m'a frappée, c'est le regard, au sens vraiment ses yeux, de quelqu'un qui joue un rôle secondaire, qui est Serge Bozon, qui est cinéaste mais qui est aussi acteur, et qui joue le rôle de ce photographe ou journaliste ou saltimbanque, je ne sais pas trop, qui va lui proposer de la prendre en photo. Et on voit que là, ce qu'il lui donne, c'est un regard qu'elle peut, elle, s'approprier, et donc une espèce de maîtrise de sinon qui serait un regard prédateur. Et là tout à coup, le regard peut devenir quelque chose de créateur. Ça, c'est assez
bien. On a presque quelque chose, d'ailleurs, on y pense, c'est là où ça rejoint peut-être un peu le film à thèse, mais on pense au female gaze, la manière dont elle filme les jambes de Nara Tereskiewicz. On le voit, en fait, quelque chose qui refuse justement de l'enfermer. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, Thierry Chaise?
Je pense que si on le voit tel aussi bien, c'est parce que ça arrive très peu, en fait. Et on le remarque parce que c'est pas si fréquent que ça se passe, et je trouve que ça le fait, moi, une fois encore, avec délicatesse et sans ne rien m'imposer, et que ça fait juste du bien d'avoir ce regard-là sur ces personnages-là, hommes et femmes.
Rosalie de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskiewicz et Benoît Magimel. C'est en salle aujourd'hui et c'est en partenariat avec France Culture. Merci à tous les deux. Charlotte Garçon, on vous lit dans les cahiers du cinéma. Thierry Chaise dans le magazine Première. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.